dans un réduit misérable. Il y a des années, une jeune fille se mourait sur un grabat. La misère autour d'elle était indescriptible. Les panneaux de la porte avaient servi au chauffage, de même que les planches de l'escalier. Un soir, plusieurs semaines auparavant, elle avait suivi la foule qui allait écouter l'évangile. Elle ne savait pas que Dieu la cherchait et qu'il allait lui faire connaître la bonne nouvelle du salut. Elle reçut par la foi Jésus pour son sauveur. Malade, elle fit appeler le prédicateur par lequel Dieu lui avait fait annoncer l'évangile. Il s'empressa de venir, mais quelle fut sa stupéfaction de voir dans quel dénuement vivait cette jeune fille. Il en avait les larmes aux yeux. « Ne pleurez pas, dit doucement la mourante, nous nous rencontrerons bientôt ailleurs. » Ne voulant pas l'abandonner ainsi, l'évangéliste lui proposa la visite de sa femme pour lui apporter les choses les plus nécessaires. « Ce n'est pas la peine, répondit-elle. Là où je vais, je n'aurai besoin de rien. Ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif, a promis notre Dieu. » Aussitôt rentré chez lui, cet ami chrétien fit part à sa femme de la détresse qu'il venait de voir. Vite, ils préparèrent un premier secours, mais la jeune fille ne s'était pas trompée. Dieu l'avait déjà prise auprès de lui. Elle avait passé dans ce lieu qu'une simple parole suffit à définir, près de Jésus. Beaucoup de personnes aiment le risque, au moins tant que cela leur réussit. Mais toutes les limites ne sont pas bonnes à franchir, en particulier la frontière entre le bien et le mal. Dieu a ses normes, avec lesquelles il ne fera jamais de compromis. Mais s'il n'intervient pas tout de suite pour punir ceux qui ont transgressé ses lois morales, par exemple l'adultère ou les fraudes de toute nature, enfin vous savez. C'est ce qui rend bien des gens peu scrupuleux d'ailleurs. Si tout se passe bien la première fois, pourquoi ne pas recommencer? En réalité, ils confondent la patience de Dieu avec de l'indifférence ou de l'indulgence. L'exemple du traître Judas est significatif. Chacun sait dans quelles conditions abominables il a conclu avec les prêtres juifs son sinistre marché. Ce qu'on ne remarque pas toujours, c'est le fait que Jésus savait très bien d'avance ce que ferait ce pauvre disciple, et cela avant même de le choisir. Pourtant, la manière affectueuse dont le Seigneur traitait Judas ne pouvait laisser supposer à personne qu'il connaissait ses intentions. Quand Jésus annonce tristement aux 12 que l'un d'entre eux le trahirait, personne ne reconnaît Judas. Dans Matthieu, au chapitre 26. Alors, mes amis, admirons la patience du Seigneur. Elle s'exerce envers tous les hommes, nous dit Pierre dans sa deuxième épître. Elle s'exerce envers tous les hommes, épuisant tous les moyens pour tourner leur regard vers Dieu. Mais il y a bien une occasion qui sera la dernière. Alors, y avons-nous réfléchi? Dans une petite ville de province, on voulait organiser une fête commémorative en l'honneur d'un inventeur célèbre né dans la cité et mort il y avait juste 100 ans. Plusieurs maquettes d'affiches annonçant les festivités furent présentées. L'une particulièrement réussie retint l'attention des organisateurs, mais un mot du titre souleva un remous des critiques. Le dessinateur avait écrit « Fête du centenaire de la mort de ». La mort était trop. Et le correspondant de presse qui narre les faits ajoute « Décidément, l'idée de la mort, même la plus glorieuse, est désagréable. La mort est une réalité que l'homme rencontre tous les jours sur son chemin. Ici un parent, là un ami, ailleurs un voisin, chaque départ est pour lui un avertissement. Aujourd'hui, ce sont les autres, demain, ce sera toi, prépare-toi. » L'homme se dérobe. Apprenant le décès d'un de ses amis, un intellectuel disait « La mort rôde autour de nous et nous agissons comme si nous ne devions jamais mourir. » Un incrédule près de sa fin disait « Ce n'est pas la mort qui me fait peur, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir un Dieu. » Rien de plus juste à tout égard lorsqu'on a refusé l'amour de Dieu manifesté dans le don de son Fils pour notre salut. Il n'y a plus qu'à attendre le jugement de ce même Dieu. Vous avez donc un choix à faire. Nous avons tous un choix à faire. Soit nous reconnaissons notre culpabilité devant Dieu et cherchons refuge en la croix du Christ dont le sang purifie de tout péché, ou alors braver la mort, braver Dieu et aller au-devant d'un juste jugement. Ce soir-là, le sommeil fuyait le jeune Bertrand. Il était tourmenté en pensant que ses relations avec Dieu n'avaient pas été ce qu'elles auraient dû être. Alors, prenant une bonne résolution, il s'écria « Seigneur Jésus, je veux t'aimer !» Mais l'expression de ce désir ne lui procura pas la paix qu'il espérait. C'était une promesse qui touchait au futur. Dieu demandait autre chose. Notre jeune ami se reprit « Seigneur Jésus, je t'aime !» Et c'est très vrai qu'il aimait son Seigneur. N'était-il pas depuis longtemps son Sauveur ? Bien sûr, on ne se tient pas toujours sur les cimes, et il avait connu des hauts et des bas, il s'en humiliait. Tel était son cœur inconstant, il ne pouvait vraiment pas compter sur lui. Il fallait cesser de regarder à soi-même, rien n'y était solide. Finalement, il s'écria « Seigneur Jésus, tu m'aimes ! » Oh, l'amour de Jésus, il pouvait y penser, l'évoquer, il en voyait les manifestations chaque jour. Cet amour rayonnait de la croix. Il l'avait délivré de son péché et bientôt il l'introduirait dans la mission du Père. « Amour de mon Sauveur, tu suffis à mon âme, paix, repos et bonheur. Je trouve tout en toi, réchauffé par ta flamme. Je puis tout supporter, fatigue, épreuve ou blâme, amour de mon Sauveur. » Un jeune homme s'était converti au Seigneur au cours d'une réunion d'évangélisation. Il s'attendait à une réaction hostile, ou tout au moins à des moqueries de la part de ses parents et de ses frères, de ses camarades, quand ceux-ci apprendraient sa décision, et il demanda à Dieu le courage dont il aurait besoin pour affronter les moments difficiles qu'il prévoyait. Mais tout se passa autrement qu'il avait pensé. La joie qui remplissait son cœur se traduisit dans tout son comportement à la maison, de sorte qu'il ne put plus cacher son heureux secret. Il raconta à l'un de ses frères l'expérience qu'il avait faite, sa rencontre avec un Sauveur vivant, la certitude d'être pardonné de ses péchés, de posséder la vie éternelle et d'être maintenant un enfant de Dieu. Henri, lui répondit son frère, je t'ai observé pendant ces derniers jours et j'ai en effet constaté que tu n'es plus le même garçon. Il a dû se passer en toi quelque chose d'extraordinaire. Crois-tu que ce changement puisse aussi s'opérer en moi ? Sûrement, fut la joyeuse réponse. Le Seigneur peut faire pour toi plus encore, si tu te confies en lui. Et c'est ce qui arriva. Par le témoignage pratique de ce jeune homme, toute sa famille, père, mère, frère et aussi son unique sœur, furent l'un après l'autre amenés au Seigneur. Ainsi, la conduite heureuse et conséquente d'un enfant de Dieu constitue la meilleure prédication de l'Évangile. L'évangéliste Luc, dans son chapitre 10, versets 25 à 27, nous rapporte « Un docteur de la loi se leva pour l'éprouver, Jésus, et dit « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment dis-tu ? » Répondant, celui-ci lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » C'est ainsi que Jésus a répondu ensuite à cet homme religieux et instruit qui lui demandait ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus voulait faire prendre conscience à son interlocuteur qu'il était incapable de faire ce qu'exige la loi de Moïse. Le principe de cette loi, c'est « fait pour obtenir ce que Dieu donne ». Maintenant, le principe de l'Évangile, c'est l'inverse. Reçois ce que Dieu donne, ensuite seulement tu pourras faire. La parole de Dieu ne reconnaît pas à l'homme le pouvoir de mériter le paradis. Au contraire, elle déclare que l'homme est naturellement mort dans ses fautes et dans ses péchés. Pas plus qu'un mort ne peut agir, un homme éloigné de Dieu ne peut être sauvé par ses propres œuvres. Mais l'évangile de Jésus-Christ est basé sur l'œuvre de Dieu. Et de quelle œuvre s'agit-il ? Eh bien, celle de Jésus. Et celle que Jésus a accomplie lorsqu'il est venu mourir sur une croix. Il a satisfait alors la justice inflexible de Dieu qui ne passe à la légère sur aucun péché. Jésus a subi le jugement que nous avions mérité. Par cette œuvre, il nous offre bien plus qu'une religion. Il nous offre le pardon de Dieu et avec une relation vivante avec lui. Mais si personne ne peut faire aucune œuvre pour être sauvé, eh bien, les croyants font des œuvres parce qu'ils sont sauvés. En effet, lorsqu'ils réalisent combien le Seigneur Jésus les a aimés, et les croyants désirent vivre non plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Plus de 2000 ans de pensée, c'est le titre d'un petit livre que j'ai reçu en cadeau. Et ce petit livre est présenté comme une sélection de citations qui, à travers les siècles, montrent que l'homme est un être pensant et on enrichit l'humanité. 80 rubriques, par ordre alphabétique, de absence à vivre. Et ces rubriques nous montrent près de 700 pensées de 250 auteurs qui, nous dit-on, nourrissent notre compréhension du monde et nous aident à vivre mieux. Beaucoup de lucidité, de sagesse humaine, sans doute, mais y trouve-t-on, comme le suggère l'introduction, un trésor des remèdes de l'âme ? Les pensées des philosophes à la rubrique philosophie sont désabusées et se résument dans l'une d'elles. Les philosophes dissèquent et ne guérissent pas. Une question est posée dans ce recueil, attribué à Thora Pascal, et c'est une parole de Jésus. Jésus qui dit « Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Cette pensée, nous la trouvons dans l'évangile de Marc au chapitre 8, verset 36. Et malheureusement, le livre ne donne aucune réponse dans ces plus de 2000 ans de pensée humaine. Pas une lueur qui éclaire le lecteur sur la condition du pécheur devant Dieu. Seul celui qui a posé la question peut résoudre l'énigme. Et Jésus a révélé le seul moyen d'échapper à la perdition. Écoutons-le. Il nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Ce message est à notre disposition. Il est à votre disposition dans un petit livre, dans un livre que l'on appelle l'évangile. Et si vous ne l'avez pas et que vous le cherchez, n'hésitez pas à nous le demander à Radio Méga, boîte postale 41018 25401, Audincourt-Cedex, et c'est avec un vif plaisir que nous vous le ferons parvenir. Peu avant sa mort, Einstein déclarait, paraît-il, que s'il avait à recommencer sa vie, il se ferait plombier. Oppenheimer, l'un des savants qui découvrirent l'énergie nucléaire, répondait à un journaliste qu'il y avait plus de vérité dans la musique religieuse de Jean-Sébastien Bach que dans tous les laboratoires du monde. Hommes déçus, ceux mêmes que nous aurions supposés les plus satisfaits par la recherche scientifique, eux aussi auraient pu dire avec Salomon « vanité des vanités ». L'homme a-t-il donc été créé pour poursuivre le vent, nous pose la question l'Ecclésiaste en son chapitre 2. Eh bien non, il est fait pour regarder vers le ciel. Il est minuscule lui-même, il n'est grand que parce qu'il peut connaître Dieu. Son passage sur la terre n'est qu'un souffle d'air, mais il a été créé pour l'éternité. Heureux s'il recherche Dieu et si, dans le sentiment de sa culpabilité, il accepte Jésus pour son sauveur. mais malheureux s'il refuse, ne serait-ce que par négligence, le grand salut que Dieu lui offre. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, n'était pas déçu. Il n'avait pas bouleversé le monde par de grandes découvertes. Il avait cru Dieu. « Je sais qui j'ai cru », écrivait-il dans sa deuxième épître à Timothée, et cette fois animait son service pour le maître. Paul prêchait l'évangile, exhortait, consolait, en voyage ou en prison, selon que la volonté de Dieu l'exigeait.